troisième temps de notre série sur l'histoire des langues dans la fabrique de l'histoire. Après avoir écouté lundi l'écrivain Vassilis Alexakis, que vous venez également d'entendre dans les matins sur la situation en Grèce, avec son invité surprise, Paul Fournel, nous parlait de jeux entre les langues qu'il pratique. Puis hier, nous être promenés dans les pas des Pères Blancs qui, à Tunis, s'occupent d'un lieu de passage entre langue arabe et langue française, l'Institut des Belles-Lettres Arabes. Et avant, demain, de nous demander comment naissent les langues avec Pascal Pic, Christophe Coupé et Alain Kim, nous allons ce matin nous poser la question des traductions du Coran en français et de leur histoire. Comment traduire un texte sacré qui normalement ne peut l'être? Quand a-t-on traduit pour la première fois l'Alcoran, comme on disait à l'époque dans notre langue? Quelles nuances ont apporté à ce texte ses différents traducteurs? André Duryea au XVIIe siècle, Antoine Galland au début du XVIIIe, Claude-Étienne Savary à la veille de la Révolution française, ou encore Albin de Biberstein-Kazimierski, noble polonais réfugié en France au milieu du XIXe. Comment présenter le Coran et le prophète à des lecteurs français? C'est ce que nous verrons ce matin jusqu'à 10h en compagnie d'Anaïs Quien, qui a préparé cette semaine avec nous, cette émission avec nous, et Daniel Koenigsberg, qui nous lira des textes du XVIIe et XVIIIe siècle, et de nos deux invités. Sylvette Larzul, elle est chercheuse au Centre d'Histoire Sociale de l'Islam Méditerranéen de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Et Soufiane Al-Karjousli, il est enseignant de langue et de civilisation arabe à Supélec, Rennes. Et il a participé à l'importante entreprise éditoriale dirigée par Yves Chevrel et Jean-Yves Masson, qui vient de paraître chez Verdier, l'histoire des traductions en langue française.
C'est Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, qui a découvert l'islam au XIe siècle, et qui a été terrifié, séduit, médusé de voir la splendeur de la civilisation musulmane en Andalousie. Et il a demandé à un Anglais, archidiacre de Pampelune, de faire la première traduction du Coran, mais avec pour mission de prouver que Mohammed était un imposteur et le Coran une imposture. Fort heureusement, nous n'en sommes plus là. Et c'est avec l'esprit libre dans chacun des cas, sans aucun souci théologique, politique, ni d'aucune autre sorte que de dire la vérité.
Voilà, c'était donc André Chouraki, traducteur en 1990 lui-même du Coran, interrogé sur France Inter en 1990 lors de sa parution, de la parution de cette traduction, qui revenait sur ses prédécesseurs, pourrait-on dire, et en particulier sur ceux qui avaient traduit le Coran en latin, et qui évoquait, Sylvette Larzul, bonjour, bonjour. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, qui au XIIe siècle, lance une entreprise de traduction déjà de ce Coran en latin. Mais alors, j'ai bien aimé le lapsus d'André Chouraki dans cette archive. Terrifié et séduit, dit-il, il se reprend. Donc il était, en tant que chrétien, terrifié et séduit par ce texte sacré, c'est cela, Sylvette Larzul?
Je ne sais pas quelle était la connaissance de Pierre le Vénérable
du texte lui-même,
puisqu'il l'a confié à Robert de Ketton, donc, qui est un clerc anglais qui se trouve à cette époque, donc on est en 1142-1143, qui se trouve donc en Espagne, et je parle là du véritable traducteur de la première version latine du Coran, donc Robert de Ketton et non Pierre le Vénérable, qui va encadrer l'entreprise.
Pierre le Vénérable est le commanditaire.
Voilà, tout à fait. Donc Robert de Ketton se trouve en Espagne parce que c'est quelqu'un qui est très versé dans l'astronomie et qu'en Espagne, on trouve des textes arabes dans la discipline. Et ce Ketton sera lui-même traducteur de texte d'astronomie arabe.
Il n'est d'ailleurs pas seul, c'est une équipe qui se lance dans cette traduction en latin du Coran au milieu du XIIe
voilà,
siècle.
Absolument. Je pense qu'il faut quand même, quoi qu'en dise Chouraki, mettre l'accent avant tout sur le côté d'entreprise apologétique. Il s'agit, et Pierre le Vénérable l'a dit lui-même, de combattre l'islam non plus. Rappelons qu'on est au temps des croisades et au temps de la Reconquista, en Espagne. Il s'agit de combattre l'islam par la plume et non par les armes.
C'est une entreprise de réfutation, c'est ça?
Absolument.
Il s'agit de réfuter ce texte sacré fait cette révélation du Coran parce qu'on est dans un combat, c'est cela ?
Absolument. Et cette marque de fabrique, en quelque sorte, cette motivation initiale de la traduction du Coran en Occident va avoir une influence très très longue. Et peut-être que j'aurai l'occasion d'expliquer tout à l'heure, il me semble que c'est peut-être la raison qui explique pour laquelle la fameuse traduction jamais parue et perdue jusqu'à aujourd'hui, du moins, d'Antoine Galland, le fameux traducteur des Mille et Une Nuits, auquel...
Au début du XVIIIe siècle.
Voilà, l'abbé Bignon avait commandé aussi cette traduction, qui aurait présenté l'islam d'une manière assez neutre, mm-hmm. et sans réfutation.
Alors, voilà. il faut dire tout de même que cette traduction de Robert de Ketton en latin du Coran va avoir une influence sur ce qui va se passer ensuite, parce que, évidemment, lorsqu'il va s'agir de traduire en langue vernaculaire, en particulier après à la naissance de l'imprimerie, de traduire donc des premiers ouvrages dans les langues vernaculaires européennes, que ce soit en allemand, en italien, on va se fonder en partie, Sylvette Larzul, voire totalement, sur cette traduction de Robert de Ketton de l'arabe en latin, c'est cela ?
Et jusqu'au XVIIe siècle, donc effectivement, oui. C'est très très long, de la moitié du XIIe jusqu'au XVIIe siècle.
Ce qui va encore, on sait qu'il est resté beaucoup de il est resté beaucoup de manuscrits de cette traduction de Ketton. Et néanmoins, ce qui fera aussi le fait qu'elle va, son influence sera durable, c'est qu'elle a été imprimée par Bibliander, donc un protestant qui a réalisé cette...
À Bâle. En 1543.
Exactement. Et néanmoins, on reste, et je tiens à insister, on reste dans des entreprises apologétiques. Il s'agit de défendre la religion chrétienne, puisque Bibliander, outre la reprise de tous les textes dont vous parliez tout à l'heure, ajoutés à la traduction du Coran, on ne peut pas dissocier la traduction du Coran des autres textes et des rives.
Oui, ces traducteurs, tout au long des siècles qui nous séparent du XIIe siècle, donc, et de Robert de Ketton et de cette entreprise lancée par Pierre le Vénérable Abel Cluny, tous les traducteurs vont devoir, ajouter ce qu'on appellerait non pas un appareil critique, mais un appareil de présentation à ce texte-là, parce qu'on ne peut pas l'offrir comme cela, simplement, aux lecteurs européens de l'époque et aux lecteurs chrétiens de l'époque, Sylvette Larzul, c'est
ça ? Oui, c'est ça, absolument. Mais pendant très longtemps, tous ces textes, tout cet appareil critique ira dans le sens de la réfutation de l'histoire.
Bien sûr, Soufiane Karjousli, sur ce point et sur cette longue histoire des traductions du Coran, d'abord en latin, puis ensuite dans les langues vernaculaires européennes.
J'aimerais bien seulement parler du fait que pourquoi on traduit le Coran, si on a l'intention, parce qu'on est chrétien pour défendre les chrétientés ou parce qu'on a d'autres buts. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas le débat, parce qu'une fois le Coran est traduit, on ne peut plus dominer l'objet. Même si j'ai traduit le Coran pour montrer que la chrétienté c'est plus ouverte, par exemple, et bien au fur et à mesure, l'objet que j'ai fabriqué, elle va vivre toute seule, elle va donner d'autres impressions, elle va même parfois le contraire, elle va appuyer le but qui n'était pas prévu dès le départ. Et ça, on a connu dans l'histoire.
C'est le principe de la traduction. C'est qu'effectivement, en traduisant, on rend libre un texte.
Voilà,
on lui donne une autre vie d'une certaine façon et qu'elle échappe à son traducteur, cette entreprise.
Évidemment.
C'est
évidemment.
Ce que raconte en particulier le livre auquel vous avez participé, Histoire des traductions en langue française, qui n'est que le premier volume, puisque c'est le 19e siècle chez Verdier, très grande entreprise qui va continuer avec d'autres volumes précédant ce 19e siècle. Alors si on vient avec vous, Sylvette Larzul, et avec vous, Soufiane Al-Karjousli, sur les véritables traductions en français, il faut commencer par André Duryea, c'est ça ?
Oui, absolument. La première traduction dans une langue vernaculaire européenne, elle est en français. Elle est signée de André Duryea. Elle paraît en 1647. André Duryea n'est pas un théologien, n'est pas un homme d'église. Et donc, avec lui, je pense qu'on est dans une sorte d'entre-deux. C'est-à-dire qu'il donne d'ailleurs à sa traduction dans un texte qui ne sera pas souvent reproduit, reproduit, mais qui est son épître au chancelier Séguier, il donne une motivation qui est pragmatique, disons. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aider les commerçants qui travaillent dans le Levant à se défendre devant la justice musulmane par la connaissance du Coran.
Alors justement, on va écouter donc Daniel Königsberg qui nous lit un extrait de ce texte, donc la dédicace à Pierre Séguier, au fameux chancelier Séguier.
À Monseigneur le chancelier, pendant le temps que j'ai servi le roi en Égypte, à Constantinople et aux autres lieux du Levant, j'ai observé que les Turcs se dispensent facilement d'obéir aux commandements du grand seigneur lorsqu'ils les peuvent éluder par une interprétation favorable à leur intérêt, principalement quand ils traitent avec les chrétiens qui négocient dans les provinces de leur domination. Mais j'ai aussi reconnu que si ce qui est contenu dans ces commandements est appuyé des points de leur loi, des sentences, des passages et des exemples de l'Alcoran, les magistrats n'oseraient y contrevenir, soit qu'ils en usent ainsi par hypocrisie ou par vénération. La façon la plus avantageuse de traiter avec eux et de vaincre l'aversion qu'ils ont souvent pour nous est de les battre de leurs armes et d'employer leur doctrine contre la malice de ceux qui veulent troubler le repos des négociants. Que si cette loi, entendue et représentée à propos aux Turcs, peut causer un grand avantage pour la facilité du commerce, elle ne produira pas un moindre fruit pour le service de Dieu par la connaissance que les chrétiens auront des inepties ridicules de cette religion pour la combattre et la convaincre d'erreurs et d'impostures par elle-même. Ainsi, Monseigneur, j'ai fait parler Mahomet en français. J'ai traduit son Alcoran en notre langue, pour la plus grande gloire de Dieu, pour le bien du commerce et pour la satisfaction de ceux qui prêchent le christianisme aux nations orientales.
Oui, car traduire un texte sacré, Sofiane Akar-Jousli, il y a toujours une intention, tout de même, même si vous dites sa vie de sa propre vie. Là, l'intention, c'est dans un contexte d'une Méditerranée orientale où on va donc quérir des biens en particulier, où depuis le roi François Ier, on a passé un accord avec Soliman le Magnifique, l'accord des capitulations, qui, on le sait, a rendu la France très présente dans cet espace géographique. Eh bien, il y a des commerçants, il y a ce qu'on appelait les Levantins, il y a tout ce qu'il y a comme personnes qui commercent entre l'Empire ottoman et la France. Et ça, c'est important tout de même, que de leur offrir à ces personnes-là la possibilité, disons, de commercer dans le mieux de leurs intérêts, Sofiane Akar-Jousli.
Il est vrai que le souci de traduire le Coran, ce n'est pas toujours le souci intellectuel.
Ça n'est pas que le souci intellectuel.
On a toujours, c'est-à-dire une traduction de Coran, parfois, elle cherche tout sauf traduire le Coran. Et c'est très drôle, on l'utilise toujours, les traductions de Coran. Toujours, il y a un but, évidemment, le commerce, ça c'est la base. Mais même parfois, c'est pour faire la guerre contre tel ou tel commerce. Mm-hmm. En tout cas, c'est l'objet, il est utilisé toujours. Et un traducteur, à une époque, c'est vrai, le sentiment est individuel pour traduire. Mais l'atmosphère générale qui demande, c'est l'atmosphère qui est demandeur ou non de traduction. Mm-hmm. Et après, c'est l'atmosphère lui-même qui va soit rejeter cette traduction, soit au contraire, mettre au premier plan.
Oui, Sylvette Larzul.
C'est l'histoire de la traduction d'Antoine Galland, à laquelle on peut répondre, on peut donner un exemple pour illustrer ce que vous dites.
Donc là, on est au tout début du XVIIIe siècle.
Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas une initiative personnelle d'Antoine Galland, contrairement à la traduction des Mille et une nuits, mais c'est l'abbé Bignon qui demande, qui est une sorte de ministre de la Culture, pour aller vite, de l'époque, qui demande, et qui est proche d'Antoine Galland, qui lui demande, de traduire. Mais donc Antoine Galland va réaliser un travail important. On sait, donc on n'a pas cette traduction.
Oui, parce qu'elle a curieusement disparu.
Oui, mais je pense qu'on peut l'expliquer. Maintenant, j'arrive peut-être à me l'expliquer.
Et elle n'a jamais été publiée.
Voilà, elle n'a jamais été publiée.
Donc il écrit ça en 1709-1710, la traduction est
voilà, faite en 1709-1710. Voilà, c'est ça, c'est très tardif, mais dans la vie d'Antoine Galland. Mais on sait ce qu'allait être cette traduction, parce que Antoine Galland a tenu un journal et il nous reste les dernières années justement de sa vie. Et il explique qu'il s'est servi, mais de ce qui va être, de ce que, oui, il faut bien dire que c'est la grande traduction des 17e siècle, 18e siècle, c'est la traduction de Maracci. Voilà, de Maracci.
Okay. Qui en latin.
Ah oui, qui est en latin et qui est toujours dans la tradition de la traduction réfutation. Mais c'est la première fois qu'en Occident, on va avoir une traduction à peu près fiable, puisqu'évidemment, c'est un texte intraduisible, on peut le dire. Mais on va voir quand même, contrairement à tout ce qui avait précédé, et notamment de celle de Quéton, un texte fiable, relativement fiable, de la traduction coranique. Et il faut quand même dire quelque chose sur Maracci. Maracci a passé, c'est un clerc, enfin, c'est un religieux qui a passé 40 ans de sa vie à traduire le Coran parce qu'il a utilisé et il a lu à fond les commentaires coraniques. Et sa traduction, il donne le texte arabe, il donne sa traduction latine, il donne en latin et en français les extraits des commentaires coraniques et des historiens qui lui ont permis d'expliquer, enfin de comprendre le Coran, et il termine par des réfutations. Donc c'est un ouvrage énorme, mais à mon avis qui ne pouvait circuler que dans un milieu restreint, qui était celui des religieux intéressés à la polémique anti-musulmane et de quelques orientalistes. Et donc Antoine Galland
reprend cette traduction.
Voilà, il reprend la traduction.
Se fonde sur cette traduction, ce qui explique d'ailleurs le fait qu'il passe très peu de temps à la traduire en français, puisqu'il connaît le latin par cœur et que c'est beaucoup plus simple de traduire du latin en français que de traduire de l'arabe en français quand on ne maîtrise pas totalement les nuances de la langue.
Mais enfin, néanmoins, Antoine Galland était un bon arabisant. Tout à l'heure, on en parlera peut-être d'autres qui les témoins. Et donc, Antoine Galland est un bon arabisant. Il utilisait Maracci et il voulait introduire sa traduction par toute une série de compendiums arabes, en arabe, de la religion musulmane. Donc on allait avoir une présentation de l'islam qui n'était plus du tout dans la réfutation.
Alors, est-ce qu'il est important, selon vous, de s'intéresser, Sofiane Al-Karjoussi, à la biographie de ceux qui traduisent, à leur itinéraire, à qui ils sont, ou est-ce que ça n'a aucune importance, savoir que on est tel ou tel, soit on a été droguement dans l'Empire ottoman, soit on a été pour certains ambassadeurs ou dans des ambassades et on a vécu à la cour du Grand Turc, etc., etc. Est-ce que c'est important ou est-ce que selon vous, ça n'a pas tant d'importance que cela quand on s'intéresse aux traductions du Coran?
Parfois, c'est pas très important parce que moi, quand je vois des traducteurs, ce sont des savants qui connaissent des langues, qui ont pris le temps vraiment pour travailler. C'est extraordinaire. Moi, j'admire tout ce qu'on a fait. Hein. C'est chapeau. Hein. Mais quand même, je trouve que parfois, c'est peut-être l'origine, parfois c'est le... Je ne vais pas classer les traducteurs, c'est-à-dire la mode maintenant dans le monde arabe, classer tous les traducteurs. Celui-là était riche, celui-là était pauvre, celui-là était chrétien, celui-là était juif, celui-là... Il y aura des influences, évidemment, il y aura des influences. Mais à mon avis, un traducteur, il est au-delà de tout ça. Il est beaucoup plus... Il donne beaucoup plus que ses origines.
Mais ça, c'est une notion très contemporaine de ce que doit être un traducteur. Lorsqu'on parle du 12e siècle, du 18e, même du 19e, on est loin de cette vision très pure de ce que doit être un traducteur.
Parce qu'il y a toujours beaucoup de scories, pourrait-on dire, qui se collent sur cette traduction, qui sont les scories de la culture de celui qui le traduit.
Regardez, par exemple, si c'est Kazmierski, il était juif, il connaissait l'hébreu. Mais il n'a jamais souligné un mot hébreu dans ses traductions.
Il ne les a pas relevés dans la traduction.
Kazimowski, c'est le traducteur du milieu du 19e siècle.
Vous voyez, c'est extraordinaire. Moi, si j'étais à sa place, je suis servi. Je suis servi parce que déjà, quand on a à l'époque du troisième calife, quand on a écrit le Coran, eh ben, le troisième calife a posé une question. Qu'est-ce qu'on va appeler ce livre ?
Eh oui.
Eh ben, c'était dans la tête du calife, ce n'est pas le Coran, hein, attention. Et une des réponses qui était extraordinaire, quelqu'un qui a relevé qu'on parle de tribus d'Israël dans le Coran, ça fait presque 60% du Coran. Alors, il a proposé d'appeler le Coran, le livre qu'on a fabriqué, le livre de Moïse. Alors là, c'était le problème. Parce que... Mais en tout cas, vous voyez, c'est... si on cherche les mots hébreux, bah, on peut appeler peut-être un livre à moitié hébreu. Mais c'est ça, pour ça, les traducteurs... Ceux qui connaissent même les langues sémitiques, souvent, ils n'ont pas touché à ça. Alors, pourquoi ils n'ont pas touché ? Peut-être ça, c'est une autre question.
On voit qu'il y a deux visions un peu différentes. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Vous assistez beaucoup, vous, Sylvette Larzul, sur ces contextes de production, sur savoir qui a produit, dans quel contexte, qui était le commanditaire, etc., en disant, bah, voilà, ça n'est pas gratuit, si on fait le Coran au milieu du 17e, c'est parce qu'on veut commercer avec l'Empire ottoman, si on le fait au début du 18e, c'est parce qu'on on commence à avoir peut-être une idée un peu particulière du rapport à la religion et qu'on veut montrer ou réfuter les oppositions, donc christianisme, islam, etc., etc.
Effectivement, je pense que les problèmes de la traduction du Coran se posent à travers les âges de manière différente. Elles sont très conditionnées par
le contexte de production.
Absolument. Et je crois que, dans l'histoire, moi, je me suis surtout occupée de l'histoire ancienne de la traduction du Coran. Mais il y a deux gros problèmes. Le premier problème, c'est d'arriver à comprendre, à appréhender le texte coranique, le sens. Ça, c'est vraiment la première question. Alors, ça varie. Il a bien enrobé. Il s'est présenté comme un grand littéraire, etc. Mais le problème reste. Est resté pendant très longtemps celui du sens. Et encore là, il y aurait beaucoup de choses à dire, puisque quand je dis Marachi a atteint une certaine on peut lui accorder une certaine fiabilité, c'est par rapport à l'interprétation qu'en donnent les commentaires coraniques, qui aujourd'hui, c'est toute une question encore tout à fait en discussion dans certains milieux. Donc, c'est toujours relatif.
Allez, la belle langue d'André Durier, langue du XVIIe siècle, lu par Daniel Königsberg. C'est son adresse au lecteur, justement, pour cette traduction de l'Alcoran.
Ce livre est une longue conférence de Dieu, des anges et de Mahomet que ce faux prophète a inventé assez grossièrement. Tantôt, il introduit Dieu qui lui enseigne sa loi, après un ange, puis les prophètes, et souvent il fait parler Dieu en pluriel par un style qui n'est pas ordinaire. Il déclame contre ceux qui adorent les idoles, particulièrement contre les habitants de la ville de la Mecque, et contre Quraysh, qui étaient ses ennemis à son avènement. Il a intitulé ce livre « Al-Coran », comme qui dirait le recueil des préceptes. Il l'appelle aussi « El-Forkan », c'est-à-dire qui distingue le bien d'avec le mal. Il l'a divisé en plusieurs chapitres, auxquels il donne telle inscription que bon lui semble. Souvent, il les intitule des mots qui sont en leur première ligne, sans avoir égard de quelle matière ils traitent, et parle fort peu de leur inscription. Il les divise en plusieurs signes ou versets qui contiennent ses ordonnances et ses fables, sans observation, ni de suite, ni de liaison de discours, ce qui est cause que tu trouveras en ce livre un grand nombre de pièces détachées et diverses répétitions de même chose. Il a été expliqué par plusieurs docteurs mahométans. Leur explication est aussi ridicule que le texte. Ils assurent que l'original de l'Alcoran est écrit sur une table qui est gardée au ciel, que l'ange Gabriel a apporté cette copie à Mahomet qui ne savait ni lire ni écrire et l'appelle le prophète ou apôtre par honneur. Tu trouveras au commencement de quelques chapitres des lettres de l'alphabet arabe que plusieurs personnes ne veulent pas expliquer. Ils ont peur de dire des choses qui ne soient pas agréables à leurs faux prophètes. Le plus grand nombre de leurs docteurs disent que ces lettres sont les premières lettres des noms de Dieu. Tu en trouveras l'explication dans cette version. Tu seras étonné que ces absurdités aient infecté la meilleure partie du monde et avoueras que la connaissance de ce qui est contenu dans ce livre rendra cette loi bien méprisable.
Voilà donc pour cette adresse au lecteur d'André Durier au milieu du XVIIe siècle. Ah, c'est très intéressant parce qu'il y a là beaucoup de choses qui vous intéressent en tant que spécialiste de la traduction, en particulier Soufiane Al-Karjousli. Par exemple, l'étrangeté de ce texte composé, dit André Durier, d'un grand nombre de pièces détachées et diverses répétitions des mêmes choses. Et puis aussi, toute la question de comment traduire tel ou tel mot et le rendre pour un lecteur français du XVIIe siècle. C'est compliqué, tout compte fait. Vous notez l'imprécision de vocabulaire, Sylvette Larzul, méchant, qui regroupe dans le texte français trois traductions de trois termes qui ne sont pas les mêmes à l'intérieur de la langue arabe et à l'intérieur du Coran. Soufiane Al-Karjousli.
Il est vrai que si on voit qu'il y a des pièces détachées, c'est pas parce que le Coran contient des pièces détachées, mais c'est que l'assemblage du Coran était fait par une manière qui n'a rien à voir avec l'histoire. C'est-à-dire le troisième calife, toujours on remonte à Osman, il a peut-être eu une avis littéraire, il a décidé de classer les sourates coraniques le plus long vers le plus court. Bah, évidemment, si on lit dans cet ordre qu'on a aujourd'hui, on saute de coq à l'âne, on ne va rien comprendre. Ça, c'est sûr. C'est justement, ça explique tous les bagailles qu'on trouve aujourd'hui, à notre époque. Ne pas suivre l'ordre historique, voilà la base. Bah, en tout cas, tous les traducteurs
sont tombés
là-dessus. Ils ont tous traduit comme ça. Il fallait attendre jusqu'au 1945, la traduction avec l'ordre historique. Et malgré ça, le monde arabe a manifesté. On a retiré la version de Coran avec l'ordre chronologique.
Oui, parce qu'il y a une sensibilité extrême à l'idée même de la traduction du Coran.
Non, ça, c'est une autre chose. On sait, même à l'époque de Mohammed, on a traduit le Coran en perse. Parce qu'on voudrait développer, ça posait aucun problème. Le problème de traduction, ça c'est 19e siècle, 18e siècle, ça c'est un autre problème. Et deuxième chose qui est très intéressant, en disant que le Coran, il est gardé, si vous voulez, dans le langage moderne, sur un disque dur chez Dieu. Et ça c'est extraordinaire. C'est ça la base de tous les problèmes. Ce que Dieu, quand il envoie les versets coraniques, il savait que l'être humain, en tout cas l'être humain, il s'appelle Insan, c'est lui qui oublie. Il sait qu'il va oublier, il va perdre tout ça. Il garde chez lui la version originale, et il nous envoie des PDF, si vous voulez, des photocopies. Maintenant, toutes les difficultés de traduction du Coran se trouvent ici. Soit l'objet qui est devant moi, c'est le Coran, et soit c'est le mushaf. Le mushaf, ce sont les manuscrits coraniques. Vous pouvez acheter n'importe quelle version du Coran aujourd'hui. Vous allez ouvrir la première page. Il ne s'appelle pas le Coran. Tout ce qu'on appelle Coran, il ne s'appelle pas le Coran. La première page, toujours...
C'est la copie du Coran.
C'est écrit mushaf. Ouais. Ce n'est pas le Coran. C'est les manuscrits faits par l'homme. Le Coran se trouve là-haut, dans le disque dur.
Sylvette Larzul, si on avance, on a évoqué ces questions de traduction. Vous parlez évidemment des traductions chez André Durier du mot grâce, par exemple. Donc, parce qu'évidemment, on est dans un contexte particulier de la religion catholique de l'époque du XVIIe siècle où la question de la grâce est fondamentale. Donc, les grâces, c'est important. Tout ça, bon, il faut se rendre compte qu'effectivement, on traduit à la fois avec sa culture, mais aussi pour ceux qui vont recevoir le livre. Et donc, qu'ils le comprennent, qu'il y ait une sorte d'approximation, ça paraît relativement logique, Sylvette Larzul.
Oui, surtout qu'à cette époque, l'écart entre les cultures est encore beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Oui, absolument. Donc,
on peut... fait une adaptation.
Oui, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, si on veut être lu.
Anaïs Kien.
Mais malgré cette visée apologétique, tout comme Antoine Galland, qui ne sera jamais publié, Durier, lui, parvient à faire publier son manuscrit, mais il est censuré malgré tout.
Oui, absolument.
bien qu'il veuille réfuter le Coran, le conseil de conscience.
Oui, mais il veut, mais il est un peu dans l'ambiguïté, voilà. C'est un entre-deux. Puisqu'il
il s'est trop rapproché du texte, c'est ça
Non, il a voulu dire qu'il travaillait pour les commerçants, etc., qu'il avait d'autres motivations que religieuses. C'était pas acceptable, pas acceptable.
Mm-hmm. Et donc, c'est le conseil de conscience voilà, qui, à la demande de Saint-Vincent de
voilà,
Paul...
Il obtient, comme il est proche du cheveu de Séguier, il obtient le privilège du roi sans problème, mais... Le conseil de conscience fait qu'il y a Vincent de Paul qui est très très réticent et finalement l'ouvrage sort clandestinement et s'est repris en Hollande, etc.
Alors, si on avance dans le temps, on a évoqué cette traduction qui ne nous est pas parvenue malheureusement d'Antoine Galland, le traducteur des Mille et une Nuits. C'est au début du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, une autre traduction donc, est produite par Claude-Étienne Savary, qui s'appuie donc, lui aussi sur la version Marachi, la version en latin évidemment. Il y a pas mal d'erreurs visiblement. Voilà ce que dit la préface donc, de Claude-Étienne Savary de ce Coran, traduit de l'arabe, accompagné de notes, précédé d'un abrégé de la vie de Mahomet, tiré des écrivains orientaux les plus estimés, Daniel Königsberg.
La traduction que j'offre au public a été faite en Égypte. Je l'ai entreprise sous les yeux des Arabes, au milieu desquels j'ai vécu pendant plusieurs années. C'est après avoir conversé avec eux, après avoir étudié leurs mœurs et le génie de leur langue, que j'ai mis la dernière main à cet ouvrage. Si le Coran, exalté dans tout l'Orient pour la perfection du style et la magnificence des images, n'offre sous la plume de Durier qu'une rhapsodie plate et ennuyeuse, il faut en accuser sa manière de traduire. Ce livre est divisé en versets comme les psaumes de David. Ce genre d'écrire, adopté par les prophètes, permet à la prose les tours hardis, les expressions figurées de la poésie. Durier, sans respect pour le texte, a lié les versets les uns aux autres et en a fait un discours suivi. Pour opérer cet assemblage difforme, il a recours à de froides conjonctions, à des bouts de phrases qui, détruisant la noblesse des idées, le charme de la diction, rendent l'original méconnaissable. En lisant sa traduction, on ne s'imaginerait jamais que le Coran est le chef-d'œuvre de la langue arabe, féconde en grands écrivains. C'est cependant le jugement qu'en a porté l'Antiquité. S'il est impossible de rendre l'harmonie des sons et des rimes arabes, on peut, en égalant son style à celui de l'auteur, en circonscrivant les tableaux dans le cadre qu'il leur a tracé, exprimer la vérité de ses traits et en offrir une image vivante. Mais pour y réussir, il ne faut pas unir les pensées qu'il a détachées, en ajouter d'intermédiaires et faire d'un ouvrage écrit avec chaleur une prose froide et dégoûtante.
Voilà donc pour cette traduction de Claude-Étienne Savary du Coran, donc en l'occurrence traduite pour la première fois juste avant la Révolution française et puis rééditée très régulièrement. Vous en parlez dans le texte que vous avez écrit pour l'histoire des traductions en langue française, donc le volume du 19e siècle paru très récemment chez Verdier, Soufiane Al-Karjousli. Vous dites qu'en fait, cette traduction, elle a quand même eu énormément de succès, cette traduction de Savary, puisqu'elle a été reprise tout le temps, 1821, 1822, 1826, 1828, 1829, 1891, etc., etc. Et que Tocqueville, soi-même, l'a prise avec lui pour aller voir ce qui se passait du côté de l'Algérie. Donc c'est une traduction qui compte et qui dit des choses aussi intéressantes, parce que on voit bien l'embarras du traducteur. S'il est impossible de rendre l'harmonie des sons et des rimes arabes, je vais tenter, etc. Alors à la fois, il dit du mal de son prédécesseur, André Durier, mais il essaye, lui, de se rapprocher de la beauté de la langue.
Mais il est vrai qu'on a... Chaque traducteur a essayé de traduire le message, si vous voulez. Mais on n'a pas essayé de traduire le son, les rimes, les rythmes, la poésie. Et peut-être c'est ça, le chantier manquante dans toutes les traductions. Pourquoi ? Parce que regardez les Arabes. Vous croyez que les Arabes lisent le Coran ? Non, ils écoutent le Coran. Mm-hmm. C'est la beauté, c'est le rime, le rythme, la poésie qui attire tout le monde. Et c'est vrai, en français, on n'a pas réussi à faire un Coran poétique. Et c'est ça qui manque. C'est l'âme du Coran, c'est la poésie.
On a réussi à le faire dans d'autres langues, dans d'autres traductions ?
Non, on n'a pas voulu, je crois.
On n'a pas voulu.
Ce qu'on n'a pas voulu, c'est qu'on ne veut pas chanter chanter le Coran en français. C'est ça le problème, c'est qu'on veut chanter le Coran en arabe.
Enregistrement dans une école coranique à Fès. Alors, Sylvette Larzul, sur cet embarras des traducteurs du Coran, quel qu'il soit, de toute façon, devant ce texte dont ils ne savent pas trop bien quoi faire, parce qu'ils sont quand même un peu embêtés. C'est un texte sacré, ils ne sont pas eux-mêmes musulmans, mais ils doivent le transcrire pour des lecteurs qui eux-mêmes ne le sont pas. C'est compliqué tout de même.
C'est très compliqué. Et aujourd'hui, on dispose en français d'un nombre assez important de traductions récentes du XXe siècle et avec des choses tout à fait opposées. Il faut quand même citer la traduction de Blacher, Régis Blacher, qui a fait un effort considérable pour, justement, tout à l'heure, il a été fait allusion à l'idée de remettre en ordre chronologique les sourates. La traduction qui se trouve aujourd'hui disponible de Régis Blacher n'est pas celle-là. Non, c'est, ensuite, on a remis dans l'ordre canonique, disons.
Qui date de 1980, la traduction de Régis Blacher?
Non, elle est antérieure, elle est des années 49. Oui. Et donc... effectivement, il a fait un gros travail, y compris linguistique, en réfléchissant au sens des mots, éventuellement à l'hébreu. Mais bon, et c'est une traduction horrible, enfin par rapport à la langue française, c'est une traduction absolument littérale et qui a été beaucoup critiquée, puisque effectivement le Coran est aussi en partie, je dirais, poésie, et effectivement elle est utile pour quelqu'un qui veut vraiment s'intéresser au sens, un arabisant qui veut vraiment travailler les textes, etc. Mais on a quand même quelques essais de traduction poétique, du moins des sourates qui sont très marquées par ce caractère. Et il y a quand même la jolie réussite d'André Miquel qui a traduit la sourate L'Événement, c'est la 56, sauf erreur de ma part, qui n'a fait que le travail que sur une sourate de taille moyenne. Voilà. Mais il y a des essais, il y a Jean Grosjean aussi, par exemple.
Tout de même, Soufiane Al-Kajousli, si on avance donc de cette révolution française et du début du 19e vers le milieu du 19e, il y a quand même un événement très important qui compte dans l'appréhension qu'on se fait en France, en tous les cas, de ce texte coranique, c'est la conquête de l'Algérie, parce que voilà donc un pays qui est en charge d'un pays musulman, qui doit donc mieux comprendre, pour mieux l'administrer, des territoires donc qui sont régis par la loi coranique, et donc eh bien ça aura des influences. Alors une des influences un peu étranges, c'est l'arrivée de ce noble polonais, à peine arrivé au moment même de la conquête de l'Algérie en 1831 en France, et qui se met à traduire dans la foulée, ou presque, ce Coran en français. Il s'appelle Kazimierski et il aura beaucoup d'influence tout au long du 19e siècle par cette traduction donc de ce milieu du 19e siècle, Soufiane Al-Kajousli.
Il est vrai que ça, c'est les périodes coloniales. Ça veut dire qu'il faut penser pourquoi la mode de traduction a été lancée. C'est pour connaître l'ennemi, oui. Mais en même temps, c'est pas seulement connaître. C'est que, regardez, depuis l'époque coloniale, on a développé ce qu'on appelle un islam. Moi, j'appelle l'islam stéréotype. Mais en tout cas, c'est un islam qui est basé sur les cinq piliers de l'islam, ce qui est tout à fait normal maintenant. Cette traduction, cette pensée a attiré l'attention sur un islam visible, tellement visible que l'ennemi il sera identifié partout. C'est ça les résultats de traduction de Coran, qu'on a un islam visible. Un musulman, il fait 5 prières par jour. Ah bon? Et c'est mieux, c'est à la mosquée. Comme ça, on le voit quand il sort, il va à la mosquée. Parfait. une femme musulmane porte le voile, Ramadan, il faut faire la fête, le bruit, tout ça. En tout cas, visible, la visibilité de l'islam. Et ça, ça vient d'une conception, si vous voulez, nous on sait, nous les Arabes, on sait que l'islam est basé sur trois piliers, pas cinq. D'abord, les cinq piliers de l'islam, tous ils font un. On a les cinq piliers de iman, de vocable amen, de iman. Sur la deuxième, le troisième pilier, c'est le ihsan, faire le bien. La traduction a poussé tout le monde arabo-musulman, même les musulmans chez eux, a poussé tous les musulmans vers la mode des cinq piliers de l'islam. Et on a laissé tomber les cinq piliers de iman, de croyance. Pourquoi ? Parce que les cinq piliers de croyance sont invisibles. Croire en Dieu, ça ne se voit pas. Croire à ses anges, voilà, là, ça ne se voit pas non plus. Et croire à tous ses prophètes, ça alors, c'est pas à un, hein, à tous ses prophètes. Croire à tous ses livres, et ça alors. Vous voyez, c'est une dimension extraordinaire. Cinquième chose, croire au jour de jugement dernier. Ah bon? Vous voyez, cinq choses invisibles. Je peux être un véritable croyant, personne ne me voit. Et c'est ça le côté qui est disparu de l'islam. Cet islam spectaculaire, cet islam colonial, moi j'appelle.
Et c'est donc justement c'est ce qui a fait disparaître cet islam colonial, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ce caractère-là. Alors cette traduction de Kazimierski, elle est intéressante selon vous, Sylvette Larzul aussi. Elle a une importance dans ce 19e siècle qui nous intéresse maintenant.
19e et 20e, elle est toujours disponible et elle a pris un caractère, je dirais, classique, puisque Kazimierski, oui,
c'est un peu comme les traductions de Edgar Poe par Baudelaire, quoi. C'est-à-dire qu'en gros,
voilà,
on les édite encore.
Oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, donc, c'est aussi un travail de commande. Kazimierski, on l'a dit, un émigré polonais qui essaie de se faire une place dans le milieu orientaliste.
Mais ce qui est très curieux, c'est que les grands orientalistes de l'époque ne saisissent pas de cette traduction. C'est Kazimierski qui va s'en occuper, alors que lui-même n'est pas un professionnel de l'orientalisme.
Et ça, c'est étrange.
Les grands orientalistes, l'époque de Sylvestre de Sacy, par exemple, pour citer ce grand nom
qu'on appelle le chèque des orientalistes.
Voilà, c'est ça, qui a façonné...
La première édition de la grammaire arabe en 1810.
Qui a façonné l'école des langues orientales. C'est tout à fait étonnant. Mais dans sa grammaire arabe, il cite comme exemple grammatico maint verset du Coran, mais jamais on n'aura de référence, jamais il ne dira qu'il s'agit d'exemples tirés du Coran, mais parce que disons que ça ne l'intéresse pas. Sylvestre de Sacy était un profond catholique, il est vrai, mais même dans le milieu universitaire de l'époque, on n'était pas encore à étudier l'islamologie. Et néanmoins, la conquête de l'Algérie, par exemple, oui, fait que on souhaiterait avoir une meilleure version que celle de Savary, eh bien, on passe commande à Kazimierski, qui travaille au ministère des Affaires étrangères.
Et puis, il faut dire aussi que dans ce 19e siècle, Sofiane Al-Karjousli, on s'intéresse beaucoup à les personnalités de Mahomet, de Mohammed. On est intéressé. Il y a eu Lamartine, Barthélemy Saint-Hilaire, Renan avec... évidemment, toute la discussion qu'il a pu avoir avec Jamal el-Din Afrani, et des discussions sur la personnalité même de Mahomet.
Il est vrai que ça, c'est l'époque où on s'intéresse aux personnalités en général.
Oui. Et Mahomet se rajoute à Jules César et à Charlemagne.
C'est un chef. Ce qui était tout à fait normal, dans la pensée arabo-musulmane, on fait toujours la différence entre Mohammed, prophète, entre Mohammed, homme, qui se trompe, qui se marie, entre Mohammed, prophète. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, en tout cas. Pour ça, ces traductions sont intéressantes.
Ah oui, bien sûr.
Parce qu'ils nous rappellent, méfiez-vous, Mohammed, c'est un homme qui a fait telle stratégie mal fait ou bien fait, qui a fait tel acte mal fait ou bien fait. Mm-hmm. C'est ça l'intérêt des traductions maintenant, parce que les livres arabes, depuis quelques siècles, ils ont arrêté de parler de Mohammed homme. C'est fini, il est sacré. Mm. Il est tellement sacré qu'on ne voit plus cet homme, comment il s'inquiétait, comment il s'est trompé, comment... C'est ça. Pour ça, moi, je trouve les traductions, ce sont une forme de rappel à nous. Regardez votre chef, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il a fait ces jours-là? Qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là?
Sylvette Larzul, sur cette distinction.
Oui, je pense qu'il faut rappeler ici à quel point l'image du prophète a été changée au XVIIIe siècle en Occident. Enfin, moi, je me place du côté de la réception. Et alors qu'on était, pour faire vite, on est passé avant le XIIe siècle, enfin, c'est très, très, je ne peux pas faire de nuances, mais très grossièrement, on était islam, paganisme, le prophète étant un magicien, un épileptique, etc. Ensuite, on passe à la version islam hérésie et prophète imposteur. Et au XVIIIe siècle, avec les déistes notamment, on arrive à... au fait que Mohammed n'est plus un prophète, mais est un homme extraordinaire et qui un grand conquérant, un grand guerrier et surtout le législateur de l'Arabie. Mmh. Vous voyez, donc
celui qui met en ordre les populations arabes dispersées qui vivent dans l'anarchie, etc.
Qui lutte contre la superstition, etc.
C'est un homme politique.
Oui, voilà. Et ce qui explique l'évolution ensuite que vous évoquiez au XIXe siècle.
Alors, Soufiane El Kharjousli, toutes ces questions, quand on est un spécialiste comme vous de cette langue arabe et de sa traduction, nous conduisent à quoi aujourd'hui? C'est-à-dire, vous disiez, on comprend mal, on a mal compris. En même temps, il y a des vertus à ces traductions, parce que ces traductions nous rapprochent quand même du texte original, même si parfois elles nous en éloignent. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, d'une certaine façon, de cette longue histoire des traductions en langue française, jusqu'à celles qui sont beaucoup plus nombreuses, évidemment, qu'on n'a pas encore évoquées et qu'on n'évoquera pas, du XXe siècle, Soufiane El Kharjousli?
Moi, je dis qu'on a la chance que les Français décident de traduire le Coran, déjà. Parce que c'est vrai, la langue française, elle est si forte aussi, c'est difficile. Et alors, il est vrai que chaque traducteur... Moi, je ne peux pas dire qu'il s'est trompé ou il a mal traduit. Chaque traducteur, je peux dire, il avait des sensibilités différentes. Il y a des mots qui attirent telle sensibilité de tel traducteur. Il y a des mots, non, il passe à côté. Mais c'est le problème de sensibilité. Et parfois, l'époque qui nous rend sensibles, regardez maintenant, si vous prononcez le mot djihad, ça clignote partout. vous voyez, il y a des mots qui attirent la sensibilité.
Ouais.
Et il y a des mots, non, ça dépend des périodes. Bah, le voile, alors là, le voile, c'est le vocable, alors, qui fait...
Bondir.
Voilà. Pourquoi? Parce que il y a des périodes. Vous voyez, les traductions, moi j'appelle les traductions, pas le Coran, les traductions des textes coraniques, ce sont une sorte de mémoire, une carte qui montre les différentes sensibilités à chaque époque. Mm-hmm. Et qui nous rendent service, nous, les musulmans, parce que ça montre comment l'objet Coran ne s'arrête pas chez nous, ne s'arrête pas en arabe. Et il continue à avoir des différentes formes, différents messages. Il n'a jamais arrêté.
Alors, je voulais peut-être pour terminer, parce qu'on arrive tout à la fin de cette émission, Soufiane El Kharjousli, j'ai lu hier dans le numéro du Monde diplomatique, alors là on est dans la totale actualité, mais je voulais quand même vous en parler, parce que c'est quelque chose qui m'a un peu surpris, un long article signé Emmanuel Talon, qui dit « L'arabe est une langue de France sacrifiée ». Alors, je ne savais pas que la... L'arabe était depuis plusieurs années considéré donc comme une langue de France, donc qu'il était donc à ce titre-là devait être enseigné comme d'autres langues donc du territoire national. Et elle explique que c'était la deuxième langue la plus parlée en France et que justement, à propos de ces questions de traduction, ça serait peut-être utile de donner encore plus la possibilité aux jeunes élèves en particulier de faire l'apprentissage de cette langue pour mieux comprendre sa culture et sa civilisation, la civilisation qu'elle porte. Soufiane Al-Karjousli, vous qui enseignez justement cette langue à Supélec-Rennes, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que c'est vrai qu'elle est sacrifiée, cette langue, dans notre pays?
Sacrifiée, ça, je ne sais pas. Mais moi, je dis, la mode, c'est l'anglais. Alors, toutes les langues étaient sacrifiées, même le français. C'est ça, le problème. On sacrifie toutes les langues. Mais malgré tout ça, moi, je trouve quand même... Le problème, ce n'est pas l'enseignement de l'arabe. C'est qu'il faut se rendre compte que c'est une langue sémitique, d'abord. Il ne faut pas le couper de son milieu naturel. Langue sémitique, c'est que si je ne connais pas l'hébreu, le syriaque, la langue amharique de l'Éthiopie, si je ne connais pas cette appartenance vraiment forte de cette langue, je ne peux pas enseigner cette langue. Cette langue, elle doit être plurielle. Elle doit être pas collée au Coran, pas collée à l'islam. L'islam, ça n'a rien à voir avec l'arabe. L'arabe était avant l'islam. Et c'est ça le défaut. Chaque fois qu'on enseigne l'arabe, on tombe dans le piège. L'arabe, c'est la langue de Coran. Mais non, l'arabe, c'est pas la langue de Coran. C'est le Coran qui était transcrit par l'arabe. L'arabe, c'est beaucoup plus ancien. Et ce mariage qui va tuer l'enseignement de l'arabe. Si on n'arrive pas à séparer... pour apprendre l'anglais, je ne vais pas aller à l'église protestante à Londres. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, ça. Alors, c'est ça. Il faut seulement séparer la langue et la religion. Et tout marche très bien.
Merci Soufiane Al-Karjousli. Je rappelle que vous avez participé donc à cette très grande entreprise éditoriale. Le premier volume fait plus de 1200 pages. Donc l'histoire des traductions en langue française, 19e siècle, chez Verdier. Il y en aura bien d'autres. Donc il y aura donc sous la direction d'Yves Chevrel et de Jean-Yves Masson d'autres volumes à paraître. Donc le 15e, 16e siècle, 17e, 18e siècle et 20e siècle. Donc autour de cette histoire des traductions en langue française. Et on pourra entendre d'ailleurs un des deux directeurs de ce grand travail chez donc Antoine Perrault dimanche sur France Culture dans l'émission Tire ta langue. Merci Sylvette Larzul. Où peut-on vous lire justement sur ces questions des traductions en langue française du Coran? Je crois qu'on peut vous trouver sur les sites comme Cairn ou comme Percé, je pense, pour certains de vos articles.
Oui, effectivement. Et si on veut en connaître un peu plus sur les traducteurs eux-mêmes mais, du Coran, je rappelle qu'il y a le dictionnaire des orientalistes de langue française, oui, qui est donc dirigé par François Pouillon.
Très grand dictionnaire.
Voilà, et qui va connaître une troisième réédition le mois prochain.
Et puis, il faut aussi dire qu'aujourd'hui même commence donc à l'école normale supérieure et pour donc toute l'année, un grand séminaire qui va durer donc toute l'année autour de la traduction objet d'histoire 18e, 21e siècle, dirigé par Raoul Markovitz et Blaise Villefer-Portal. Et donc, commence aujourd'hui par les deux directeurs de ce séminaire traduction objet d'histoire. Eh bien, il y aura, je crois que c'est à partir de 10h, un mercredi par mois, de 10h à 13h. Donc il y a Raoul Markovitz et Blaise Villefer-Portal qui parlent de faire l'histoire de la traduction en historien. Et dès le mois prochain, le 14 novembre, Yves Chevrel, qui a donc co-dirigé cette histoire des traductions en langue française, il sera pour parler justement de quelle histoire pour les traductions en langue française. C'est donc à l'école normale supérieure. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marseille, à la technique aujourd'hui Maïtran et à la réalisation Françoise Camard.